Philosophie éthique, Père Philippe, 13 mars 1997, Saint-Jodard.
L'impérium, pourquoi utiliser un réveil le matin pour commander son lever? Le permettre serait-il pas plus efficace? Pourquoi peut-on obéir à... On n'obéit pas au réveil. On obéit au réveil, signe que c'est l'heure de se lever. C'est un signe. Comprenez bien que l'obéissance au réveil, ce serait d'être un petit toutou. Oui, c'est là où vous voyez la différence du dressage et de l'éducation. Le dressage, c'est que le chien obéit à un signe. Parce qu'il sait que s'il n'obéit pas, il recevra un coup de marteau. Et venez-moi ça. Tandis qu'au contraire, vous obéissez au réveil parce que c'est un signe que Dieu vous demande par l'intermédiaire du prieur ou du père maître que c'est bien de vous lever à telle heure. Ça fait partie du règlement de vie. Le règlement de vie représente ce que Dieu réclame de nous. Alors, il y a plusieurs intermédiaires. Le réveil est le dernier intermédiaire, très fidèle. C'est pour ça qu'on le prend. Parce qu'il obéit matériellement, sans aucune interprétation. Alors, à ce point de vue-là, c'est parfait. On utilise le réveil comme un signe. Évidemment, le permettre pourrait venir taper à la porte de tous. C'est pour éviter ça, pour rendre service au permettre. Il se sert du réveil. Et si vous étiez unique, un seul, peut-être que le permettre pourrait taper à votre porte. Et quand on est nombreux, ça ferait un petit service assez long tous les matins. Oui, de sorte que le dernier aurait l'avantage de dormir un quart d'heure de plus. C'est peut-être pour ça qu'il le souhaite. Tandis que le réveil peut être automatique pour tous. Alors là, il y a une sainte égalité, on se réveille tous. Même moment. Oui, donc, on n'obéit pas au réveil, on obéit au commandement de nos supérieurs, représentant l'autorité de Dieu. Alors, on se sert du réveil comme d'un signe. Comment retrouver une force de l'intelligence pratique? Quand on a un hyperium très enveloppé d'affectivité ou de curiosité artistique, c'est sûr, c'est d'être conscient de ce qu'on fait, c'est-à-dire d'être un peu plus humain. Et être conscient qu'on est entré en vie religieuse. Et pour vivre sa vie religieuse, on accepte un règlement de vie. Et c'est accepter ce règlement de vie qui est au fond pour nous la manière d'entrer dans l'obéissance. C'est vrai que l'intelligence pratique n'est pas souvent très développée du côté moral dans le monde d'aujourd'hui. Les gens ont un règlement de vie ordinairement parce qu'ils sont obligés de l'avoir. Ils doivent se lever à telle heure pour être au bureau, à telle heure pour être au travail, à telle heure. Est-ce que c'est très finalisé? Hélas, rarement. Or, ce n'est intelligent au point de vue pratique que quand c'est finalisé. Dites-vous bien ça. L'ordre moral pratique est intelligent en fonction de la finalité. Et c'est très vrai qu'aujourd'hui, le point de vue éthique étant très peu éveillé, on éduque très peu vraiment le point de vue moral. On éduque beaucoup plus l'aspect artistique de l'efficacité. C'est beaucoup plus ça qu'on éduque aujourd'hui. Point de vue affectif en fonction de l'amour qu'on a pour tel ou tel qu'on va retrouver. C'est beaucoup plus ça qui éduque, qui éveille l'affectivité que le point de vue prudentiel qui nous donne une finalité à tout ce que nous faisons. Mais en vie religieuse, au contraire, le point de vue curiosité artistique et le point de vue affectivité sont mis tout à fait au second plan, au troisième plan. On vous dit, on entre dans un ordre nouveau de vie, une harmonie de nos diverses activités. On le fait par amour pour le Christ. Voilà notre finalité. Et nous essayons d'être éveillés à cet amour du Christ pour nous donner la force de faire durant la journée tout ce qui nous est prescrit. Point de départ du réveil à travers les diverses occupations. C'est toujours par amour pour le Christ que nous faisons ça, pour être son serviteur, pour être son enfant, pour se former pour lui. Et donc, c'est plus difficile aujourd'hui d'entrer dans la vie religieuse qu'il y a peut-être 100 ans. Ce 20e siècle a connu des attaques, des révolutions culturelles très fortes, de sorte que c'est pas étonnant qu'on a plus de peine à comprendre ce qu'est l'impérium, ce qu'est l'éducation. Parce que on est beaucoup plus livré à soi-même. L'autonomie dans sa vie morale joue un rôle beaucoup plus important qu'avant. C'est plus difficile aujourd'hui. Et puis aussi, peut-être qu'on est tombé dans une moralisation avant qui était très forte et qui, à la place d'aider pour comprendre ce que c'est qu'un acte humain, on a tellement mis de l'importance à une moralisation qu'on en a un peu soupé et qu'on a envie de s'en libérer. Je crois qu'il y a les deux facteurs qui jouent et qui se rencontrent et qui opèrent la même difficulté d'accepter un horaire de vie. Ce serait du reste intéressant dans un cours d'éthique de voir quelles sont les difficultés majeures que nous avons pour accepter un règlement de vie. La plupart d'entre vous, vous n'en aviez pas, ou si vous en aviez avant, c'était quelque chose qu'on essayait par tous les moyens de s'en libérer, parce qu'on ne comprenait pas la vraie nécessité. On ne comprenait pas pourquoi cela. Alors, entrer directement dans un règlement de vie de vie religieuse, si on n'est pas tout le temps en présence de la fin. Je fais ça par amour pour le Christ. Je fais ça pour lui. Et que cet amour est vécu à travers la foi. Donc dans l'obscurité. À travers l'espérance. Donc dans la pauvreté. L'amour a beaucoup de peine d'être là, présent, pour l'emporter. Pour obéir rapidement, pour obéir intelligemment, il faut beaucoup d'amour. Et c'est cet amour-là qui peut seul nous aider à vivre. Et à nous donner suffisamment de force pour poser des actes d'impérium. C'est difficile pour nous de poser ces actes d'impérium, parce que l'amour n'étant pas suffisamment présent, l'intelligence pratique n'est pas suffisamment motivée pour obéir. Ça devient difficile. Les gars, être lucide sur certains points, on voit que on sait bien qu'on voudrait le faire et c'est difficile. Alors, c'est la mauvaise humeur qui l'emporte. On est d'accord, hein. En gros, on dit, mais oui, on sait bien qu'il faut faire ça. Mais on voit surtout les difficultés. Est-ce que on pourrait dire que tout premier amour, amour spirituel, provient de Dieu? La réalité profonde de l'amour nous échappe. Est-ce que je pourrais dire cela dans l'éthique religieuse? Car Saint Jean dit, tout amour vient de Dieu. Sûrement, tout amour vient de Dieu. Et donc, pour pouvoir vraiment obéir à notre vocation, à ce qui représente les choses essentielles de notre vie, L'obéissance n'est pas chose naturelle et facile. Or, dans la vie religieuse, l'obéissance joue un rôle capital. C'est évident. Et il y a toujours des circonstances qui font que l'obéissance est quelquefois très difficile parce que il y a tel ou tel événement. Il n'y a pas eu une communication suffisamment limpide entre celui qui commande et celui qui doit obéir. Alors, c'est quelquefois très difficile. Mais ces difficultés ne peuvent être dépassées que par un très grand amour de celui qu'on cherche. C'est toujours ça qu'on doit chercher en premier lieu. Pour obéir, non pas d'une manière servile, il faut faire ça, mais d'une manière aimante. Que ce soit à cause de l'amour qu'on obéit. Alors à ce moment-là, l'obéissance prend une note toute différente, une note joyeuse, parce que c'est pour nous la manière la plus efficace de montrer notre unité de vie. Tandis que si au contraire, on met très en lumière les difficultés. On a beaucoup de peine d'obéir. Ça devient très difficile. Et vous précisez très clairement le bien qui existe entre le choix et l'intention, le lien qui existe entre le choix et l'intention. Qu'est-ce qui vient en premier? N'oubliez jamais qu'il y a deux priorités. Il y a la priorité de l'intention. On est lié à une fin par l'intention de vie. À ce moment-là, c'est l'intention de vie qui est première. Et puis, il y a l'exécution. L'exécution, c'est la réalisation concrète. Ordinairement, le lien de l'ordre d'intention est inverse à l'ordre d'exécution. C'est très curieux. Prenez un exemple que vous avez vécu et qui vous a peut-être blessé, marqué très fort, dans l'ordre d'intention. Qu'est-ce qui est premier? C'est l'intention, ce pourquoi on doit poser un acte, ce pourquoi on obéit. Dans l'ordre de l'exécution, c'est ce qui est le plus immédiatement proche de moi que je dois faire en premier lieu. C'est donc pas l'intention de vie qui est première, mais l'exécution. Or, l'exécution et l'intention se rencontrent et s'aident à réaliser tout acte moral. Mais l'intention et l'ordre d'exécution sont très différents, ne comportent pas du tout les mêmes difficultés. dans l'intention. Je veux voir clair le but qu'on recherche. Dans l'exécution, je vois ce que je dois faire en premier lieu. Et ce n'est pas la même chose ordinairement. L'ordre d'intention et l'ordre d'exécution sont différents. Et c'est là où, de fait, les petits conflits peuvent exister. Les petits conflits peuvent exister parce que, justement, ce n'est pas la même chose. Et dans l'ordre d'intention, on a réfléchi sur tel ou tel moyen qui devait changer pour que l'exécution puisse se faire. Dans l'ordre d'intention, on a beaucoup réfléchi sur l'ordre qu'on devait suivre. Dans l'ordre d'exécution, on est en face de quelque chose qui s'impose immédiatement. Oui, l'ordre d'intention est beaucoup plus intelligent. On y a réfléchi, on a vu qu'il fallait bien suivre cet ordre. Dans l'ordre d'exécution, on est devant le fait à accomplir. Et il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait, quelquefois. On n'a pas averti, on n'a pas dit ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait dû avertir. Alors ça fait des conflits. Et les conflits d'ordre d'exécution sont ordinairement beaucoup plus pénibles. Pourquoi on ne m'a pas averti? Pourquoi on ne m'a pas dit? On a fait ça en dehors de moi. Alors, c'est vrai, c'est toujours très désagréable quand on doit coopérer. Sentir qu'on l'a fait en dehors de moi. Pas méchamment, mais parce qu'on a demandé à quelqu'un de le faire, de prévenir qui n'a pas prévenu. Ou qu'on avait eu tel ou tel obstacle à ce moment-là, et la chose ne s'est pas dite. Les choses étant pressées, elles devaient se faire. Oui, c'est tous les conflits qu'il va y avoir lorsque, de fait, on est plusieurs à exercer l'autorité. Alors il y a des conflits. Parce qu'on ne se voit pas tout de suite. Alors, on peut oublier. On va voir autre chose. Mais c'est très important de bien voir que dans toute œuvre où il y a plusieurs personnes engagées, plusieurs autorités engagées, en théorie, on est tous d'accord. Et en pratique, il peut y avoir des conflits. Et c'est toujours désagréable. C'est évident. Parce que l'ordre d'intention et l'ordre d'exécution ne sont pas les mêmes. L'ordre d'intention, on est engagé dedans. On a réfléchi ensemble. Et on a pu très bien ne pas avertir où on a cru que la personne était avertie. Et on a continué. Et quelqu'un qui est engagé dans la même recherche trouve subitement télescopé. Alors, on est blessé parce que jusque-là, on coopérait. y a beaucoup de choses hein, qui sont comme ça dans l'exécution. Parce qu'on est dans le temps, et on est diversement dans le temps, dans la réflexion et dans l'exécution. Ce sont deux ordres différents, l'ordre de la réflexion et l'ordre de l'exécution. Alors quelqu'un qui n'a pas participé à l'ordre de la réflexion parce qu'il était absent à ce moment-là, parce qu'on n'a pas pu le rencontrer à ce moment-là, qui subitement se trouve engagé dans quelque chose qui est tout à fait autre. C'est très désagréable. C'est évident. Mais, et alors ça, c'est la complexité de notre manière de vivre au point de vue pratique. On réfléchit sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'on doit faire, cet ordre de réflexion. Se fait selon les possibilités du moment. Et quelqu'un qui était engagé dedans ne se trouve pas là, à ce moment-là. Il peut y avoir ça. Alors à ce moment-là, c'est pas du tout parce qu'on l'excluait, mais de fait, il a été exclu par la réflexion. C'est constamment comme ça. Et beaucoup de difficultés proviennent de ça. Parce que l'ordre de l'exécution et l'ordre de l'intention ne sont pas les mêmes. En quel sens la passion peut-elle nous aider à faire un don de soi dans un amour d'amitié? Nos activités personnelles, morales, humaines. Bon, il y a une phase de réflexion. On réfléchit sur ce qu'on doit faire. Et il y a une phase d'exécution. Ce sont deux phases différentes. L'exécution. Il faut s'engager directement. Et l'ordre d'exécution n'est pas le même que dans la phase de réflexion. La phase de réflexion n'est pas immédiatement engagé dans les choses concrètes. De l'autre côté, on l'est directement. Alors, il peut très bien y avoir des conflits. Alors, il peut y avoir des conflits parce que il y a des difficultés qui ont surgi, qu'on n'avait pas vues avant. C'est très rare qu'on voit d'un seul œil toute la complexité d'une action humaine. Et on la voit différemment suivant notre situation dans le parcours. Différemment si on est responsable, différemment si on doit coopérer, différemment si on pensait devoir coopérer et que de fait, la chose a été plus rapide, passée au-dessus de notre tête, ce qui n'est jamais très agréable. Quand on s'est donné entièrement à quelque chose. Oui, c'est dans ce sens qu'on parle de la phase d'exécution différente de la phase d'intention. Dans la phase d'intention, on réfléchit sur les moyens. On est quelquefois obligé de changer complètement les moyens à cause de tel ou tel aspect qu'on n'avait pas vu. Alors là, peut se faire, et c'est très souvent ce qui arrive, c'est que la phase d'exécution révèle des quantités de choses qu'on n'avait pas vues dans l'intention. À cause de la complexité de la phase d'exécution, on est obligé de modifier pas mal de choses de la phase d'intention. Et alors, si ceci se passe avec plusieurs personnes, il peut se faire que certaines personnes n'étaient pas présentes à la phase d'intention et subitement voient la phase d'exécution. Ce qui n'est jamais très agréable quand on s'était soi-même engagé. Vous avez des heures, des difficultés. Et c'est pour ça qu'on distingue avec beaucoup de netteté, au point de vue théologique et au point de vue philosophique, la phase d'intention et la phase d'exécution. Tout peut être très pensé du côté de l'intention. Et dès qu'on est dans l'exécution, il y a toujours des choses qui changent. C'est là où on comprend le réalisme de l'action humaine. Le réalisme de l'action humaine, c'est que il y a toujours une différence, quelquefois très, très profonde, entre ce qu'on a pensé avec le plus de précision possible, et l'exécution. Pourquoi ? Parce que dans l'exécution, il y a toujours des difficultés nouvelles qui apparaissent, et qui quelquefois obligent de changer profondément la phase d'intention. La phase d'intention, on la porte en soi. Donc, il y a des difficultés qu'on ne voit pas. La phase d'exécution, elle reste en face de nous. Et on voit les difficultés. Et obligé, très souvent, de modifier la phase d'intention par les exigences de l'exécution. Et qui fait que on a l'impression, à ce moment-là, de ne pas être fidèle à ce qu'on avait dit. C'est vrai, on a été obligé de changer pour telle ou telle raison. C'est là où il faut garder une certaine souplesse dans l'activité humaine. C'est jamais aussi rigide, vous voyez, que les mathématiques ou que la pensée spéculative. Le point de vue pratique est différent. Il a ses exigences propres. Il a son ordre propre. Vous voyez, c'est l'intérêt d'étudier au plan philosophique les différents moments de l'activité morale. Depuis l'intention jusqu'à l'exécution. On étudie ces activités d'une manière philosophique pour être plus lucide sur les difficultés qui peuvent se présenter. Dès qu'on est dans la phase d'exécution, on doit accepter de voir beaucoup moins clair. Et des difficultés peuvent surgir. Mais réfléchissez sur n'importe quel travail que vous avez pu faire. On étudie d'abord inintentionné dans notre intention. Et on a l'impression quelquefois que tout va bien. Tout a été très mesuré. Et puis dès qu'on est dans la phase d'exécution elle-même, on est dans le combat. Il y a des difficultés nouvelles qui apparaissent, qui n'étaient pas apparues dans la phase d'intention. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre l'ordre d'intention et l'ordre d'exécution. Et si vous devenez trop rigide sur l'ordre, le passage des deux, vous risquez souvent ou de faire de grosses maladresses ou faire souffrir. C'est là toute la difficulté de la coopération. Dans l'acte moral, la coopération est bonne, elle est même nécessaire, mais elle est toujours assez délicate parce que on peut très bien ne pas regarder la même chose à faire selon non seulement des perspectives différentes, mais selon le développement même de l'intention. On a toujours vu ça. Et dès que vous êtes plusieurs à réaliser quelque chose, il y a fatalement des perspectives différentes. Et ceci apparaît d'autant plus quand on a commencé l'exécution. Et c'est là où il faut une très grande souplesse dès qu'on coopère dans une action à plusieurs. Parce que chacun a sa propre perspective qui se modifie selon l'ordre d'exécution et qui entraîne souvent des changements. Celui qui est moins immédiatement engagé ne voit pas. Mais alors, ce que nous faisons là, dans cette analyse, c'est quelque chose qui est très intéressant à se faire à soi-même dans nos diverses activités, les analyser à la lumière de l'intention. Ça, c'est primordial. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les engagements nécessaires? Et on les corrige successivement selon l'intention qui se réalise et qui réclame certaines modifications. C'est dans ce sens-là qu'on dira que les intentions morales, il faut maintenir toute leur souplesse. Parce qu'il y a toujours des faits nouveaux qui apparaissent. Alors, on peut être aussi très souple à l'égard de ces faits nouveaux et comprendre que ces faits nouveaux apportent une nouvelle lumière qui fait qu'on doit changer. Alors ça, c'est toute la souplesse de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, dans l'ordre pratique, doit comprendre cette très grande souplesse. C'est la prudence. Il y a des voies déterminées, c'est très vrai. L'intention, on revient toujours à l'intention. Et suivant l'intention, on peut modifier le reste. Ce qui est important, c'est que l'intention demeure. Et même dans l'intention, quand on s'aperçoit que l'exécution sera beaucoup trop difficile, parce qu'elle exige certains apports, on peut comprendre qu'il faut modifier son intention. Ordinairement, l'intention ne se modifie pas, mais les moyens. Mais c'est dans ce sens-là où il est important, quand on exécute quelque chose ensemble, quand on doit faire quelque chose ensemble, d'avoir toujours de manière très nette l'intention qu'on doit faire. Parce que à partir de l'intention, on choisit les moyens. À partir de l'intention, on sait ce qu'on doit faire. Les moyens, ça peut changer. Et l'intention, elle porte sur la finalité. Les moyens porte sur la réalisation concrète. Alors, on n'a plus la même lumière sur l'intention et sur les moyens. C'est pas la même lumière. L'intention doit rester droite. Je ne dis pas inflexible, non. Parce que la réalité est complexe. On doit faire attention à certains points qu'on n'avait pas vus et qui, peut-être, n'auraient jamais été visibles si on n'avait pas fait, si on n'avait pas eu cette intention. Et vous avez une intention, tout de suite, certaines difficultés apparaissent qu'on n'avait pas vu avant. Alors il faut avoir suffisamment de souplesse pour modifier. Dans les choses pratiques, on n'a pas la même nécessité que dans les choses spéculatives. C'est pour ça que certains peuvent être merveilleux dans l'ordre spéculatif, et dans l'ordre pratique, manque de souplesse. Et l'inverse, certains sont merveilleux dans l'action pratique, et ils transposent le même registre dans le domaine de l'intention. Et c'est là où, de fait, je crois, notre vie, dans la mesure où on essaie d'en être conscient, notre vie nous apprend toujours beaucoup de souplesse dans l'ordre pratique. Mais ne confondons pas les deux ordres. Quand on commence à confondre les deux ordres, même dans l'ordre spéculatif, on veut beaucoup de souplesse. Là, il n'y a plus chose suffisamment nette dans la recherche de la vérité. Et chacun d'entre nous, on est un petit monde. Dès qu'on regarde le point de vue pratique. Et chacun d'entre nous, ce petit nombre, se construit. Quelles sont nos intentions de vie? Quels sont les moyens ?